Conférence privée par le père Philippe à Rimont, le 11 avril 1988.
Je recommande à vos prières d'une façon très spéciale la mère de notre père, Jacques Vianney, qui est gravement malade. Hier au soir, j'avais reçu, après que son père lui avait téléphoné, j'ai eu au bout du fil, au bout du téléphone, et puis ce matin, il a dit que ça continuait. Alors, supplier la Vierge Marie, spécialement, puisque notre frère Isaïe est en loin, il faut qu'on supplie par la prière. Nous allons continuer, puisqu'il ne faut pas abandonner trop, de regarder le commentaire de l'Apocalypse, c'est-à-dire d'essayer d'entrer dans le mystère de l'Apocalypse. C'est bien un mystère dans lequel il faut entrer. Et c'est très bien de le regarder dans la lumière de la résurrection du Christ. Je vous avais dit qu'avec le chapitre 12, qui est le grand signe dans le ciel, on entre dans cette attitude réflexive, je crois qu'on peut dire une attitude réflexive, qui donne la signification des luttes. Et on voit que la lutte, elle est entre le dragon et la femme. Cette grande vision de la femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Et l'autre signe, le dragon. Ce qui nous permet de dire, si on est attentif au texte, que la grande lutte dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle nous sommes, c'est la lutte du dragon, c'est-à-dire de l'antique serpent, c'est-à-dire de l'adversaire, c'est-à-dire de l'ange déchu, Lucifer, contre Marie. Les meilleurs exégètes aujourd'hui considèrent que la signification profonde de la femme dans ce chapitre 12, c'est Marie. Ses meilleurs exégètes, c'est le père Braun, c'est lui qui l'a dit le premier. Tandis que le père Allot, lui, disait que c'était l'Église. Si vous lisez attentivement le texte du chapitre 12, vous voyez bien que c'est très difficile de considérer que c'est l'Église. En premier lieu, ce qui caractérise la signification des symboles, c'est que les sens sont multiples. Il n'y a pas qu'un seul sens. Toujours. C'est pour ça qu'on emploie un langage symbolique. Mais il y a un ordre dans les significations. Et donc, il y a une première signification qui est la clé. Et puis, il y a les autres significations. Et je crois qu'ici, la femme, c'est premièrement Marie, c'est deuxièmement l'Église, et c'est troisièmement la créature, nous. La créature, qui est la créature, la Benjamine. La femme, c'est la Benjamine de toutes les créatures, selon le langage même de Dieu, et selon le langage de la Genèse. Je crois que nous pouvons aujourd'hui, à la suite du père Braun, à la suite du père Feuillet, à la suite aussi du père Gallo, dictionnaire de la spiritualité, il reprend en disant que c'est Marie. Je sais que d'autres maintiennent le point de vue de la femme, le point de vue de l'Église. Avec le chapitre 13, nous entrons dans un autre aspect de la lutte, en ce sens que nous allons voir la stratégie du démon. On assiste à la stratégie du démon qui nous est révélée, en ce sens que le démon, comme tout orgueilleux, la psychologie de l'orgueil, on la connaît très bien. Pas besoin. C'est pas un mystère, du reste. La psychologie de l'orgueil, on la connaît très bien. C'est au cœur de toute la psychologie. C'est l'orgueil. Et le démon, je ne dis pas que c'est une psychologie d'orgueilleux, mais c'est quand même par orgueil qu'il a péché. Et il est dans cette attitude de celui qui rejette une volonté du Père qui ne correspond pas, qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas en conformité avec sa volonté propre. Et c'est pour ça que le démon ne s'avoue jamais vaincu. Il ne faut jamais l'oublier. Ne peut pas s'avouer vaincu. Ce sera un acte d'humilité. Vous voyez, on comprend ça très bien. Faire un tout petit peu retour sur nous-mêmes et nous apercevoir que dans l'orgueil qui est en nous, nous ne voulons pas nous accuser vaincus. On a toujours raison. Et on se considère comme ayant raison. Et on ne veut pas considérer qu'on puisse être trompé. Alors, lorsque le démon poursuit la femme et qu'il n'arrive pas à l'atteindre, et le dragon se mit en colère contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tint sur le sable de la mer. Tout ça est symbolique. Le dragon, ne pouvant pas atteindre la femme, va l'attaquer dans sa descendance. Et nous sommes la descendance de la femme. Nous sommes la descendance de Marie. Et plus on est proche de Marie, plus, ordinairement, le démon nous poursuit. Toujours. C'est tout le temps comme ça. Et alors, cette attaque contre la descendance de la femme se réalisera par la bête de la mer et la bête de la terre. Là encore, symbolise, qu'est-ce que c'est que la bête de la mer, qu'est-ce que c'est que la bête de la terre? Je crois que c'est l'alliance du démon avec les hommes, les suppôts du démon, comme on dit. Le démon se sert de l'homme pour détourner l'homme. Se cache. Il aime beaucoup se servir de l'homme pour tromper l'homme. Parce que c'est une double victoire. Et le démon singe ce que Dieu fait. Dieu se sert de l'homme pour sauver l'homme. Et dans les alliances que Dieu fait, et dans la multiplication des alliances que Dieu réalise, Dieu aime de faire miséricorde à ses instruments, à ses amis. Et on devient les instruments de Dieu, les apôtres. Il y a des apôtres du démon, il ne faut jamais l'oublier. Et le démon aime d'avoir des apôtres. Sont justement ceux avec qui il a fait une alliance particulière. Et nous sommes ici en face de deux alliances particulières. L'alliance avec la bête de la mer et l'alliance avec la bête de la terre. C'est ce que nous allons voir maintenant en essayant de comprendre ce que ça signifie. Et je vis monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes. Alors voyez tout de suite le déséquilibre. 10 cornes. La corne symbolise la puissance. La tête symbolise l'intelligence. Donc un déséquilibre. Ceux qui sont possédés par le démon ne savent plus ce que c'est qu'aimer. Et par le fait même, on est en présence d'un pouvoir et non pas d'une autorité. Le démon a un très grand pouvoir sur nous, mais il n'a aucune autorité. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça qu'on n'a pas à obéir au démon. Quelquefois, il nous intimide. Quelquefois, il nous fait peur. Et alors, une fois qu'on est intimidé par le démon et qu'on a peur, on est comme une bête traquée et on fait des tas de bêtises. Le démon a un grand pouvoir. Dieu lui laisse un grand pouvoir. Mais il n'a aucune autorité. La bête de la mer, c'est la même chose. Elle a un pouvoir. Les 10 cornes. Un pouvoir très grand. Et elle a 7 têtes. Les 7 têtes montrent que son intelligence n'a pas été touchée par le péché. Nous le savons, l'Église nous le dit, que notre intelligence humaine n'est pas touchée par le péché. C'est pour ça qu'il peut y avoir des très grands pécheurs qui sont en opposition violente avec Dieu, avec leur Père, et qui sont pourtant très intelligents. Surtout dans l'intelligence scientifique, rationnelle. Pas lorsqu'il s'agit de la sagesse. Lorsqu'il s'agit de la sagesse, si notre cœur n'est pas rectifié, il y a nécessairement du côté de la sagesse quelque chose qui fait que la sagesse ne peut pas s'épanouir entièrement. Si on comprend bien la différence entre science et sagesse, la science, c'est la recherche des lois propres ou des causes propres, tandis que la sagesse, c'est remonter à la source première. Et c'est tout jugé dans la lumière de la source première que les traditions religieuses appellent Dieu. Il n'y a pas de regard de sagesse tant qu'on n'a pas atteint la cause première. Tandis que la saisie des lois ou la saisie des causes propres nous permet de poser un jugement de science. Alors, comprenons bien que le péché n'a diminué en rien l'intelligence de l'homme, et même d'un homme qui est possédé du démon, l'allié du démon, qui a fait avec le démon une alliance. Son intelligence demeure. C'est très important, ça. Et son intelligence est plus ordonnée à l'amour. Son intelligence est ordonnée au pouvoir. L'intelligence démoniaque est une intelligence ordonnée au pouvoir. La seule chose que le démon cherche, c'est de dominer. De dominer sur nous. De dominer sur l'univers. C'est la seule chose qu'il cherche. Tandis qu'une intelligence de celui qui demeure à l'image de Dieu est une intelligence ordonnée à l'amour. On connaît pour aimer plus. Et si on doit exercer l'autorité, l'autorité est un service en vue de l'amour. Donc il faut bien comprendre cette bête de la mer ayant 10 cornes et 7 têtes et sur ses cornes 10 diadèmes pour bien nous montrer le pouvoir qui s'exerce actuellement. Il y a les diadèmes. À qui ? Et sur ses têtes, des noms de blasphème, des noms blasphématoires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nom blasphématoire ? Est-ce que le nom blasphématoire par excellence, est-ce que ce n'est pas de dire « Dieu n'existe pas » ? Et un blasphème, c'est dire « Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas tout-puissant ». Un blasphème, c'est d'oublier, de reconnaître les vraies manières d'être de Dieu, de respecter et de louer Dieu dans ses attributs. Et que vous rejetez les attributs de Dieu, alors vous blasphémez Dieu. Et le blasphème radical, c'est de dire Dieu n'existe pas. C'est pour ça que ça m'impressionne beaucoup. Pour nous, je vous ai déjà dit, l'Apocalypse pour nous prend une signification très particulière. Vous voyez que sur ces têtes, il y en a 7. Il y a des noms blasphématoires. Alors quand vous avez compris au plan philosophique que depuis 130 ans, il y a 7 ou 8 grandes formes d'idéologie athée, vous commencez à comprendre un peu la signification de la bête de la mer. Ce sont des hommes qui, à la place de rechercher la vérité, proclame que Dieu n'existe pas. Je crois que ce sont ces têtes sur lesquelles il y a des noms blasphématoires. Proclamer Dieu n'existe pas. Vous voyez les 7 grandes formes d'athéisme. Vous les connaissez bien. Il ne faut jamais les oublier. Je vous les redis. Parce que ça, c'est un fait historique. Ça n'a jamais existé avant. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Le positivisme et le néo-positivisme. Le positivisme d'Auguste Comte. Hein. Dieu n'existe pas. Et Dieu ne peut pas exister. On devient alors des serviteurs de l'humanité. La religion existe encore, Auguste Comte, mais c'est une religion toute humaine. Auguste Comte, le marxisme, ensuite, vous pouvez mettre Nietzsche, l'athéisme nietzschéen, l'athéisme de l'évolutionnisme absolu, de William Huxley, l'athéisme d'un Sartre, il a une forme particulière. Vous avez ensuite un athéisme très particulier, qui est l'athéisme néo-hégélien d'un Brunswick. Ce que Brunswick dit, Dieu, c'est l'équation différentielle, vous savez. Si Dieu est équation différentielle, il est bien évident que Dieu n'existe pas. C'est la pensée mathématique qui est la plus pure et qui nous fait comprendre ce que c'est que Dieu. Et puis la dernière forme, c'est le freudisme. Je crois que les deux extrêmes, c'est le positivisme et le freudisme. Le freudisme, c'est la thèse qui va le plus loin. Je crois que c'est l'antithèse du don de sagesse. Vous voyez, bienheureux les pacifiques, le don de sagesse. Alors là, c'est l'équilibre que l'homme doit retrouver par lui-même et pour lui-même. Il y a là sept grandes formes d'athéisme. Depuis 140 ans, 130 ans. Et qui sont toutes des ces athéismes, qui sont des idéologies athées, sont chacune à sa façon. Ces idéologies sont toutes en opposition vis-à-vis des dons du Saint-Esprit. C'est très étonnant. Les sept esprits mauvais, c'est bien les hommes sous le souffle du démon, sous l'inspiration du démon. Et là, on découvre ce que c'est que la bête de la mer. Le démon est caché, et c'est lui qui est à la source. Et sur ses têtes, des noms blasphématoires. Et la bête que je vis était semblable à une panthère. Et ses pattes étaient comme d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Alors, si vous êtes un peu artiste, faites, ça a été fait du reste, hein, c'était bien la tapisserie d'Angers. On a des représentations étonnantes quand on regarde ça. Regardez cette bête. Elle était semblable à une panthère. Ses pattes étaient comme d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Oui, l'anarchie. C'est très net. Et puis alors, il y a l'antithèse de l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu en nous a trois dimensions, selon ce qui nous est dit dans la Genèse. L'homme crée à l'image de Dieu, et en lui le dominium, l'intelligence et l'amour. On est semblable à Dieu de cette triple manière, les trois grandes dimensions de l'image de Dieu en nous. Bien, je crois que la bête de la mer, c'est l'antithèse de l'image de Dieu. Et c'est pour ça que vous retrouvez les trois, la panthère, l'ours et la gueule de lion. Je crois qu'on peut assez facilement voir ces trois dimensions de l'image de Dieu qui sont en nous, qui sont comme inversées. C'est l'exaltation de l'homme. Mais de l'homme qui ne veut être qu'homme, qui tue en lui le sentiment religieux et qui veut s'exalter. La gueule de lion, l'ours, la panthère. Vous voyez les trois oppositions avec le dominium, l'intelligence et l'amour. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. et l'alliance avec le dragon. Il lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et l'une de ses têtes était comme égorgée à mort et sa plaie mortelle avait été guérie. Faut être très attentif à ça. L'une de ses têtes était comme égorgée à mort, donc blessée. Et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre entière, étonnée, suivit la bête. Il y a comme une espèce de prodige étonnant. Et ce prodige étonnant fait qu'on est séduit par la bête. Et la terre entière, alors ça c'est dans le langage de l'Apocalypse, il faut bien comprendre, la terre entière c'est tous les habitants de la terre. Les habitants de la terre c'est tous ceux qui ne cherchent comme bien qu'un bien terrestre. On dirait aujourd'hui des matérialistes. Ceux qui sont enfermés sur un bien sensible et terrestre. Et donc, la terre entière, c'est tous ceux qui ne savent plus ce que c'est que la vraie finalité. Alors ceux-là sont dans l'admiration, étonnés, et se mettent à suivre la bête. Et on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et on se prosterna devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Vous voyez, la bête cherche, on l'adore. Et en l'adorant, on adore le dragon. Le démon, en réalité, ne cherche qu'une seule chose, c'est qu'on l'adore. À la place d'adorer Dieu, se mettre à adorer le dragon. Qu'on reconnaisse sa grandeur et sa puissance. Et on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et on se prosterna devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Qui est semblable à Dieu, vous savez bien, le grand cri dans le ciel de ceux qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Qui est semblable à Dieu ? Et là, on considère la bête comme ce qu'il y a de plus grand. Il lui fut donné une bouche qui disait des énormités et des blasphèmes. Il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le symbolisme des nombres est toujours très difficile. Alors il y a là comme une espèce de pouvoir que Dieu a donné. Et vous voyez, ce pouvoir est limité. Dieu donne à la bête de la mer, un pouvoir limité, un pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son séjour, ceux qui séjournent dans le ciel. Donc tous ceux qui adorent Dieu, ceux qui veulent le contempler. Donc la fureur de la bête de la mer contre Dieu, son nom, son son séjour, le lieu où il réside, et ceux qui séjournent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Donc comprenez bien, quand il est dit et de les vaincre extérieurement, comme Jésus a été comme vaincu à la croix. Le démon à la croix est persuadé d'être vainqueur. En réalité, il ne l'est pas. C'est la grande victoire du Christ. Mais extérieurement, c'est comme une victoire du démon. D'arriver à faire que Jésus, celui qui est Dieu, soit attaché au bois. La toute puissance de Dieu qui est symbolisée par les bras du Christ, par les pieds du Christ, que la toute puissance de Dieu soit comme attachée au bois. Ça, c'est la grande victoire du démon. Toi, apparente au niveau de la manifestation, au niveau des choses qui se voient. Jésus est vaincu à la croix. Et alors ici, on voit que les saints subissent le même sort. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Tous ceux qui habitent sur la terre, donc tous ceux qui sont pris par ce positivisme et qui ne cherchent qu'une seule chose, les biens visibles et sensibles. Tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Ceux dont le nom ne se trouve pas écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Ceux qui sont inscrits sur le livre de vie de l'agneau égorgé, c'est le mystère de la prédestination. Vous vous souvenez ? Seul l'agneau peut ouvrir ce livre, enlever les sceaux, les 6 premiers sceaux, les 7 premiers sceaux, je veux dire, puisqu'il y en a 7, enlever ces sceaux, seul l'agneau, comme égorgé, peut le faire. Ce qui montre bien que tout le mystère de la prédestination se réalise à travers Jésus. Et donc ici, on voit le partage. Ceux qui suivent l'agneau partout où il va, ce sont ceux qui sont les prédestinés. Et puis, il y a ceux qui suivent la bête et qui adorent la bête et qui considèrent il n'y a rien au-dessus de la bête, qui est comme la bête. Vous voyez, le combat se situe au niveau de l'adoration. Ça, c'est l'Apocalypse montre très fort ça. L'adoration représentant justement ce qu'il y a de plus fondamental dans notre vie religieuse. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un doit être tué avec le glaive, il faut qu'il soit tué avec le glaive. Ici et la constance, donc la patience, et la foi des saints. Donc, seule la foi peut discerner la bête de la mer. Ici est la connaissance et la foi des saints. On ne peut pas discerner la bête de la mer par sa seule intelligence philosophique. On est roulé à tous les coups. C'est vraiment la foi qui permet le discernement de ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors vous voyez, cette parole mystérieuse, hein, si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un doit être tué avec le glaive, il faut qu'il soit tué par le glaive. Ici est la patience et la foi des saints. Bien comprendre ce que ça veut dire, cela. Et c'est comme si à un moment donné, quand la lutte est tellement grande, on ne peut plus rien changer. Et c'est très curieux, cela. Je crois que c'est constamment ce que nous voyons. Au niveau psychologique, de la psychologie des pécheurs, il y a comme une nécessité. Ils vous disent toujours ça. Je n'ai pas pu faire autrement. Et si quelqu'un des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Je crois que c'est l'antithèse de la prédestination. La prédestination, c'est Dieu qui nous choisit par amour, en nous maintenant dans la liberté. On coopère à l'amour de Dieu. Et on veut coopérer à l'amour de Dieu. L'antithèse, c'est quoi? C'est que psychologiquement, on ne peut pas faire autrement. On est comme ligoté, si vous voulez, par ce qui s'impose à nous. Si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un doit être tué avec le glaive, il faut qu'il soit tué avec le glaive. Ici est la patience et la foi des saints. Et le règne de la bête, de la mer. C'est de proclamer cette espèce de fatalisme psychologique. Je ne peux pas faire autrement. On est comme téléguidé. C'est ce qu'on entend constamment aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a au niveau psychologique des plis qui s'imposent avec nécessité. Une fois que vous êtes dans le rouage. Et ça, c'est juste l'inverse. Et c'est comme une espèce de fatalisme psychologique qui est juste l'inverse de la certitude de la prédestination. Parce que la prédestination, dans sa certitude, la prédestination respecte la liberté des hommes. Dieu ne peut pas nous prédestiner et nous sauver sans nous. Il nous prédestine dans son regard d'amour et il veut que nous coopérions à ce regard d'amour. Tandis qu'au contraire, quand on est pris par la nécessité psychologique, on se laisse aller jusqu'au bout. Il n'y a plus de liberté. C'est ce qui diminue énormément la culpabilité du reste. Alors vous voyez des quantités de gens qui se suicident aujourd'hui, se suicident dans cette espèce de nécessité psychologique. sont acculés à ça. Et rien ne les arrête. C'est comme une espèce de pli psychologique, vous voyez, qui s'impose. Et la liberté comme annihilée. C'est très, très mystérieux. C'est pour ça que c'est si important de bien saisir ce portrait de la bête de la mer. Et pour mieux le comprendre, il faut regarder tout de suite aussi la bête de la terre. Les deux se tiennent. Et le dragon a cette double stratégie. Il nous poursuit par la bête de la mer, il nous poursuit par la bête de la terre. Vous allez voir tout de suite. Et je vis une autre bête montée de la terre. Elle avait deux corps. Elle n'a que ça. C'est pas très intelligent. Elle n'a que deux cornes. Elle avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Oui, la singerie. L'agneau. Comme un agneau. Jésus, c'est l'agneau. Et la bête de la terre, elle est comme un agneau, de cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. La fausse douceur. Et elle parlait comme un dragon. Et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle. Et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Vous voyez comme c'est curieux. Ce qui caractérise la bête de la mer, c'est que la plaie mortelle a été guérie, la plaie mortelle de la tête. Et elle fait de grands signes, jusqu'à faire descendre de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Donc la bête de la mer, la bête de la terre, a un très grand pouvoir. Pouvoir magique. Un très grand pouvoir. C'est pas l'intelligence qui brille en elle. C'est l'exécution d'un pouvoir. Et elle l'exerce. Donc, et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle. Et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Et elle fait de grands signes, de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, devant les hommes. Cherchez ce que c'est. Le feu du ciel, là, ça pourrait être la technique. Parce que la technique et tout ce qui est artistique est lié au feu du ciel. Songez à Prométhée, le mythe de Prométhée. Et elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de faire devant la bête. Disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête, une icône, image. En grec, icône. Une image pour la bête. Celle qui a la plaie du glaive et qui a repris vie. Oui, troisième fois. Donc on insiste, hein, c'est net. C'est ça qui caractérise la bête de la mer. Celle qui est blessée mortellement à une tête et qui revit. très curieux, cette espèce de faux miracle, de fausse résurrection. Il fut donné de donner un esprit à l'image de la bête. Ça, c'est le comble. Donner un esprit, comme si on était source de vie, source d'intelligence. Il fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. La tyrannie la plus absolue. Donc vous voyez, bête de la mer, bête de la terre et l'icône, l'image. Il y a trois points. Et cette image, elle reçoit la capacité de parler, donc comme si elle était un vivant. La vie, normalement, ne se transmet que par Dieu. Et tout le désir du dragon, c'est de faire croire qu'il est source de vie, pour qu'on l'adore. Il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Voilà la grande tyrannie. Il fait que tous, les petits et les grands, et les riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, on leur met une marque sur leur main droite ou sur le front. Une espèce de sacrement, vous voyez, un anti-sacrement. Le baptême est une marque sur le front, sur le cœur. On leur met une marque sur leur main droite ou sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le chiffre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Demandez à l'ordinateur. Car c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est 6, 6, 6. Vous voyez, comme c'est mystérieux, comme c'est symbolique tout ça. Mais on voit très bien quand même, quand on regarde ces deux grands symbolismes de la bête de la mer et de la bête de la terre, on voit très bien la corruption de l'intelligence, la bête de la mer et l'intimidation provoquée par la bête de la terre. Et les deux se conjuguent. L'intimidation à cause du pouvoir. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez plus rien. Vous allez mourir de famine. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas le chiffre de la bête. Ici est la sagesse. Donc, il ne s'agit pas de calculer, il s'agit de comprendre. C'est la sagesse. La sagesse. Don du Saint-Esprit. La sagesse contemplative, c'est cette sagesse-là qui donne le discernement. Et que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. car c'est un chiffre d'homme. C'est très important, ça. C'est un chiffre d'homme. Et ce chiffre, c'est 666. Vous voyez, ce qui est impressionnant, on y reviendra, parce que c'est très important, ce lieu, c'est capital, de comprendre la stratégie du démon. Parce qu'elle est présente autour de nous, on la voit. De comprendre qu'avec les idéologies athées, ces sept grandes formes d'idéologie athée, il y a un procédé d'intimidation. S'il n'y avait que les idéologies athées, on arriverait très facilement à s'en tirer. Mais il y a un procédé d'intimidation qui est la bête de la terre. Et le procédé d'intimidation, il est manifesté par ces deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Et on montre bien que cette bête de la terre, elle n'a aucune intelligence propre. C'est uniquement ce pouvoir qu'elle a reçu de la bête de la mer. Et elle veut l'imposer. Alors c'est important de comprendre le chiffre de la bête, de la terre. Alors je ne sais pas, il faut essayer de comprendre. C'est un chiffre d'homme, pour moi ça c'est la clé. Ça veut dire un chiffre relatif à l'homme. Et que c'est l'homme qui doit faire comprendre, c'est pas le chiffre qui fait comprendre l'homme, mais c'est l'homme, un chiffre d'homme. Alors je me demande... Le chiffre de l'homme religieux, c'est 7. Et c'est vrai que si on essaie de comprendre d'un point de vue philosophique ce qu'est l'homme, on s'aperçoit qu'il a 7 dimensions. La personne humaine, 7 dimensions. La dimension extrême, c'est l'attitude religieuse exercée dans l'adoration. Alors, si vous supprimez l'adoration et cette attitude religieuse, vous êtes en face d'un homme qui est 6 et qui se replie sur lui-même. Et l'anti-trinité. Pour n'atteindre que lui et ne chercher que lui. Là, vous avez l'homme qui se replie sur lui-même et qui ne cherche que lui. Le terrible égocentrisme, orgueilleux. Et vous avez bien cet homme nouveau, amputé par le démon. Ose à Dieu en le rejetant et qui ne cherche de salut qu'en lui. Voyez, quand le pape, venant pour la première fois en France et voyant les évêques à Paris, à huis clos, mais ça a été ensuite édité. Au moins certaines choses, le discours du pape a été édité. Pas sans doute la conversation qu'il a dû avoir ensuite. Le pape dit ceci, que l'Église aujourd'hui vit une méta-tentation. La tentation qu'elle n'a encore jamais vécue. et que cette méta-tentation, c'est l'homme qui cherche à se sauver par lui-même. Et donc l'homme qui rejette le sauveur. Est-ce que ce n'est pas 666 ? L'homme dans sa dimension qu'il se donne à lui-même, coupé de Dieu, et voulant trouver en lui-même sa propre justification. Je me demande si au fond ce n'est pas ça le but précis de la bête de la terre, d'arriver à forger l'homme à sa dimension.